revenir, et on est au mi-chemin, donc on a fini les chapitres 13, 14 et 15. Nous allons reprendre, mais nous allons prendre un moment que j'ai prévu depuis plusieurs mois à commencer une série sur 1 Corinthiens, pour plusieurs raisons de notre assemblée, une épître au sujet de l'Église et une douzaine de problèmes qui peuvent harceler et même ruiner une église locale. Mais nous allons donner un peu de contexte et puis lire le texte qui sera 1 Corinthiens 1, versets 1 à 9 aujourd'hui. Mais nous allons nous mettre dans le bain. C'est l'année 50. Vous habitez dans une grande ville cosmopolitaine en Grèce. Cette ville est une ville avec toutes sortes de personnes, des Romains, des Grecs, des gens des pays de l'Est. Et c'est une ville de commerce, une grande ville de commerce parce que cette ville est stratégiquement localisée dans cette partie de la Grèce. Beaucoup d'affaires, ça brasse. C'est une ville de plaisir. C'est le siège de l'Empire romain de l'immoralité sexuelle. C'est là que vous habitez. En fait, le philosophe Platon, parce que vous habitez Corinthe, ce philosophe, quand il voulait parler d'une prostituée, il utilisait le terme une Corinthienne. Depuis des siècles, c'est l'année 50, mais depuis des siècles, on utilise un verbe qui signifie jouer la Corinthienne pour parler de la fornication. Et tout le monde connaissait ces termes. Pourquoi est-ce que c'est comme ça dans votre ville? Parce que vous devenez comme ce que vous adorez. Et à Corinthe, la fierté, c'est que sur un grand rocher, à 1800 mètres, il y a un temple, et ce temple, c'est la déesse Aphrodite. Et Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Mais l'amour païen, l'amour romantique, oui, l'amour érotique, l'amour immoral, vous devenez comme ce que vous adorez. Et donc, chaque soir, dans votre ville, 1000, je vous ai dit 1000 prostituées qui sont des prostituées du temple descendent dans la ville pour faire leur commerce. Vous vivez à Corinthe. C'est une ville d'une énorme activité intellectuelle parce que, après tout, nous sommes en Grèce. Athènes n'est pas loin. Beaucoup de philosophie. Commerce, plaisir, activité intellectuelle, c'est là que vous habitez. Et dans cette année 50, un beau jour arrive au port une personne que personne ne remarque. Il s'appelle Paul. Nous le connaissons maintenant en tant que l'apôtre Paul. Il débarque, personne pour l'accueillir. Il ne connaît personne. Il vient poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Il a un fardeau pour cette ville inique. Bientôt, il se fait des amis et il commence à prêcher l'Évangile. Et comme vous avez entendu dans la lecture de tout à l'heure, beaucoup des Corinthiens croient et leur vie est transformée. Un miracle se passe dans cette ville tellement immorale de Corinthe. Oui, même là. Jusqu'au point où Paul reste 18 mois à prêcher et à bâtir cette église, ce qui est extrêmement rare pour lui de rester aussi longtemps. Mais ce n'est pas facile d'implanter une église à Corinthe. Jusqu'au point où il semblerait que Paul prend peur et il se demande s'il doit partir. Parce que le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, acte 18, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi, c'était sa crainte, pour te faire du mal, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Parce que notre Dieu est un Dieu souverain, il a un peuple. Ce peuple, il le connaît déjà. C'est un peuple élu. C'est lui qui a choisi depuis la fondation du monde. C'est lui qui va venir chercher ce peuple et personne ne va l'arrêter. Parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ils ne sont pas convertis, ces gens-là, mais ils vont se convertir parce que Dieu est un rédempteur souverain. Paul, après 18 mois, il part. Et dans les quelques années qui suivent, l'Église reçoit la visite d'Apollos, probablement, presque certainement, de Pierre et peut-être de Barnabas. Aussi, au sein de l'Église, il y a des leaders qui surgissent. Mais. Votre Église, chers amis, commence à avoir des problèmes. Certains de ces leaders commencent à amener l'Église loin de l'enseignement de l'apôtre inspiré. Et problème après problème commence à surgir. D'abord, il y a des divisions. Dans votre Église, c'est une grande Église, c'est pas comme ici. Mais il y a ceux qui disent « Je suis de Paul ». Il y a d'autres qui disent « Je suis d'Apollos et je suis de Pierre ». Et il y a des factions. C'est complètement charnel. Complètement charnel. Il y a une grosse immoralité sexuelle. Un cas dans l'Église d'inceste d'un homme adulte avec sa propre maman et même les gens de Corinthe, si immorels qu'ils soient, sont scandalisés. Et ça, c'est votre Église. Il y a plusieurs croyants dans l'Église en ce moment, chez vous, qui sont en dispute sérieuse jusqu'au point où ils s'amènent les uns les autres au tribunal. Quelqu'un de vous, dit Paul, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre frères. Et en même temps, il y a certains d'autres qui commencent à manger des aliments sacrifiés aux idoles dans les temples de manière à participer un peu à cette adoration blasphématoire et à compromettre l'Évangile. Ça va encore plus loin, parce que quelques gens de votre Église sont morts et d'autres malades parce que le Seigneur est venu châtier. Et vous savez pourquoi? Parce que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parce qu'ils sont arrivés à user de la scène d'une manière complètement blasphématoire. Et ça, c'est votre Église. Il y a toutes sortes de problèmes dans votre Église par rapport aux dons spirituels. Là, il y a le chaos. Votre Église est arrivée au point où elle a un complexe de supériorité par rapport aux autres Églises. Plusieurs fois dans cette épître, Paul doit taxer cette Église d'être, et il utilise le mot à plusieurs reprises, arrogant. Et il doit dire Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter la main, les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et il doit nous dire ça parce que nous pensons que nous sommes beaucoup, nous sommes quelqu'un. Et en raison non pas du fait que nous avons des vertus, nous ressemblons à Christ, nous avons de l'amour, nous sommes saints, pas du tout pour ça. Nous pensons que nous sommes quelque chose à cause des dons spirituels. Et nous les utilisons non pas pour nous servir les uns les autres dans l'humilité de Christ, mais pour se montrer. Et ça, c'est votre Église. Il y a même quelques gens qui commencent à renier la résurrection de notre Église et dire qu'il n'y a pas de résurrection. Et Paul doit prendre tout le chapitre 15 pour adresser ce problème. Toute une section de l'Église a vraiment commencé à mépriser l'apôtre Paul et à essayer de vous persuader de couper tous les ponts avec lui, tous les liens. Vous allez dire, mais quel chaos! Comment est-ce possible dans une église? Oui, je suis d'accord avec vous. Certains dans cette église ne sont pas des vrais croyants, vraiment des nouveaux. Paul est obligé de dire dans le chapitre 16, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Sous-entendu, il y en a qui ne vont pas passer l'examen. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre vous. Vous êtes de véritables croyants. Mais vous n'êtes pas en train de laisser l'Évangile reformer et transformer votre manière de penser sur la sexualité, sur les relations entre vous, sur ce qui est important et moins important, sur plein de choses. Et c'est ce problème qui est derrière tous les problèmes. Vous n'êtes pas en train de vous laisser, comment dirais-je, vous ne permettez pas que l'Évangile soit ce bulldozer qui aplanisse ce qui s'élève en vous et qui remplisse tout ce qui est creux en vous. Vous entendez dans l'enseignement. Sauf que là où ça vous blesse, là où ça demande un changement, que vous ne serez pas le même qu'aujourd'hui, vous avez toujours une raison pour ne pas changer. Ça, c'est le problème. Ça, c'est mon problème. Ça, c'est votre problème parfois, n'est-ce pas? Et donc, comment est-ce que Dieu... Parce que maintenant, dans cette année 54, j'avance 4 ans, l'apôtre Paul prend son stylo et de l'Éphèse, il écrit à notre église. Pas la première lettre, il a déjà écrit une autre, elle est perdue, on ne sait pas ce qu'elle dit, mais elle fait référence à cette première lettre perdue dans 1 Corinthiens. Il va écrire 4 lettres. Dans ces quelques années, il va faire 3 visites. Nous n'avons que deux de ces lettres, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Mais comment est-ce que toi, si c'est à toi d'écrire une église comme ça, comment est-ce que tu commences la salutation et la conversation avec une église dans un tel état? Ben, nous allons voir. Lisez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 1. Et les 9 premiers versets. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ceci, envers notre Église en chaos. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichis en lui en toutes choses et en toute parole et toute connaissance. Une allusion aux dons spirituels qu'ils ont. Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais ça nous montre une chose, et puis on va voir les trois points rapidement. Dans cette église, on pourrait penser que c'est rempli d'illuminés, n'est-ce pas? De croyants excités, mais farfelus. Mais non, ce n'est pas le seul aspect du problème. C'est la vitalité même de cette église qui est en train de devenir son piège. Parce qu'il y a quand même ici de vrais croyants qui aspirent à l'expérience la plus profonde, l'engagement le plus ferme et le plus radical envers le Seigneur Jésus-Christ. Et comme ils comprennent mal l'évangile, et ils refusent d'autres parties de l'évangile, ce zèle qui est là dans certains croyants véritables les amène n'importe où. N'importe où. Mais Paul voit, parce que Dieu voit, qu'il y a quand même la présence du Seigneur et son salut, et qu'il y a de véritables croyants ici. Et donc, avec les Corinthiens, parce que cette lettre est écrite pour vous aussi, nous avons besoin de trois choses pour nous affermir et pour arriver jusqu'au bout en grandissant dans le Seigneur. Première chose, vous devez vous souvenir de votre nouvelle identité en Jésus-Christ, constamment. Je le dis autrement. Vous devez savoir que qui vous êtes, ça ne tourne pas autour de vous, ça tourne autour de Jésus-Christ. Lisez avec moi au début. Paul dit, donc au verset 2, et il leur donne leur identité. À qui est-ce qu'il écrit? Qui sont-ils? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Première chose. Vous êtes une église de Dieu. Vous n'êtes pas une église de Pierre, d'Apollos ou de Paul. Parfois, la première chose qu'un chrétien qui vient ici en visite veut savoir, il veut savoir si je connais tel grand prédicateur ou telle grande église. Certains, ils vont aller à une conférence chrétienne seulement si un tel est orateur. Leur identité, parfois, tourne autour de quelqu'un d'autre, leur identité chrétienne. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu ici qui était presque offensé que je suis désolé, mais je ne connaissais pas qu'il y avait une église, je ne savais pas qu'il y avait une église à Mulhouse qui était la plus grande église de la France, qui a, quoi, 3000 personnes, ainsi de suite. J'étais pas au courant. Et comme c'était une église de la dénomination de cette personne, et comme cette personne, son identité n'était pas en Christ, mais était dans sa dénomination et dans la grandeur de telle église, il était presque fâché. Vous voyez le problème? Notre identité, nous ne sommes pas l'église d'un tel, nous sommes l'église de Dieu. Et nous n'allons pas avancer à moins de savoir que nous appartenons au Dieu transcendant. Cher ami, qui que vous soyez, qui que ce soit avec qui vous voulez vous identifier, tel grand prédicateur, il est trop petit. Il est trop petit, il est un rien. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Deuxième chose, lisez avec moi encore. Dans le verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. Ok, vous êtes l'église de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Père vous a donné à Jésus-Christ. Sanctifié, c'est dans le passé. C'est pas dans le présent, le futur, c'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose de faire. Vous avez été sanctifié. Ça ne parle pas de votre état moral, de votre pureté, ça parle de votre position. Ça veut dire que vous avez été mis à part pour appartenir à Jésus-Christ. D'accord? Vous avez été mis à part. Vous avez été séparé de tout autre maître ou seigneur et vous êtes maintenant à lui. Mais bien sûr, la contrepartie, vous, à ceux qui ont été sanctifiés, passés en Christ Jésus, appelés à être saints. Puisque Dieu vous a donné à Jésus-Christ, vous êtes appelés à devenir ce qu'il aime. Et qu'est-ce qu'il aime? Il aime ce qui est saint, ce qui est pur. L'honnêteté, la bonté, l'humilité, la véracité, l'honnêteté. C'est ce qu'il aime. Et ce qui est important ici, c'est que votre identité, c'est que vous êtes saint. Vous appartenez à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un accessoire dans votre vie. Vous appartenez à lui. Qui vous êtes, c'est, vous ne pouvez pas l'expliquer sans prononcer le nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes à lui. Vous lui appartenez. Vous n'êtes pas autre chose que le sien. Mais ça, c'est formidable, n'est-ce pas? C'est absolument formidable. Mais ça veut dire que la sainteté morale que vous poursuivez, attention, attention, ce n'est pas un moralisme. Vous n'essayez pas d'être bon. Vous essayez d'être ce que aime Jésus-Christ. Vous ne pouvez même pas définir la pureté chrétienne sans parler de lui. C'est un peu comme ceci. Si une femme, on va le faire autrement, si un homme épouse une femme, il est à elle. Et maintenant, s'il va devenir telle ou telle chose qui définit un bon mari, c'est pas juste pour être, pouvoir dire je suis un bon mari. Non, c'est pour elle. C'est par rapport à elle qu'il devient ça. C'est pas pour lui-même. La pureté chrétienne n'est pas une chose pour que je puisse me féliciter. Vous êtes à Jésus-Christ appelé à être saint pour lui. La sainteté envers le Seigneur. Et donc ça, c'est une identité qui change beaucoup de choses. Qui change beaucoup de choses. Donne-moi Jésus-Christ. Donne-moi ses commandements, donne-moi ses lois, donne-moi ses exigences. Dis-moi tout ce qu'il veut, parce que ça c'est mon appel, de lui plaire pour lui-même. Pour lui-même. Et ça c'est mon identité même. Ça change beaucoup de choses. La troisième chose, donc nous sommes en train de parler de notre identité, le premier point. Là, et la troisième chose, c'est que... On lit à la fin de ce verset 2, il dit « À tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur. » Alors, c'est la seule fois où Paul salue une église, et il salue cette église, mais il dit « Je salue aussi tous les chrétiens. » Pourquoi est-ce qu'il fait ça? À l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une bonne raison pour cela. La bonne raison, c'est que l'église de Corinthe se croit différente, supérieure de toutes les églises. Et Paul est en train de dire, non, vous êtes juste une petite partie de tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Ça, c'est votre identité. Bon, c'est évident pour nous, nous ne sommes pas spéciales, nous ne sommes que quelques brebis ici. Mais si on devenait un jour 1000 personnes ici, on serait juste une petite partie de cette grande épouse du Seigneur, pas différent. Il n'est pas possible que vous soyez différent. Cher ami, l'Église qui a le plus de fruits et le plus de dons dans le monde aujourd'hui est une Église de pécheurs qui ne peut éviter la colère à venir et l'enfer éternel, sauf par le sang de Jésus-Christ. Voilà. Et avec tous leurs dons et quoi que ce soit, ils finiront à l'enfer s'ils n'ont pas le même sauveur que nous. Voilà. Nous sommes tous le même. Et il faut que nous le rappelions. Nous faisons partie d'une grande famille que nous devons aimer comme étant notre famille, des gens, des croyants comme nous. Alors, donc ça, il faut que nous le fassions. Il faut que nous voyions cette identité qui tourne autour de Jésus-Christ. Vous l'avez vu? Mon identité. Je ne peux pas me comprendre en dehors de Jésus-Christ. Mais deuxièmement, nous devons être reconnaissants à Jésus-Christ pour notre enrichissement spirituel du passé. Alors, lisez, c'est-à-dire jusqu'ici, vous êtes converti depuis quoi? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Et pendant ce temps, vous avez vu dans votre vie, dans la vie de votre Église, vous avez vu que le Seigneur a enrichi, il a béni. Et nous lisons donc la manière, il y a une manière de voir cette bénédiction qui va nous éviter beaucoup de problèmes. Regardez ceci. Je rends, verset 4, continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce, donc imméritée de Dieu, qui vous a été accordée où? En Christ Jésus. De ce que vous avez été enrichi, comment? En lui, c'est-à-dire en union avec lui. En toute chose, en toute parole et toute connaissance. Il parle des dons spirituels de parole et de connaissance, prophétie, etc., qui étaient dans cette église. Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don. Voilà, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la première chose que nous voyons, c'est que les Corinthiens et nous, on reçoit un recadrage solennel ici. Parce que Paul dit, OK, vous avez été incroyablement enrichis et bénis en tant qu'assemblée. Mais vous avez été enrichis de toutes les richesses de sa grâce. Alors, regardez le verset 4 et ensuite le verset 7. Il dit, donc il rend grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus. Et puis le verset 7, ainsi, par cette grâce, il ne vous manque aucun don. Il est en train de dire à cette Église, et nous pouvons le prendre comme nous, pour nous, que tous les dons, tous les enrichissements que nous avons, c'est des charismata qui viennent de charis. Et Paul va faire un jeu de mots presque avec ces deux mots. Et c'est difficile pour nous aujourd'hui de comprendre ça parce que nous avons utiliser ces termes, les charismes, pour nous, c'est des capacités spirituelles, des dons spirituels, mais nous ne voyons pas que l'accent ici, Paul utilise ailleurs, quand il n'écrit pas à Corinthe, il appelle les dons spirituels par un autre mot qui n'a pas le mot grâce dedans, qui a le mot pneuma, l'esprit. C'est des spirituels. Les dons spirituels, il les appelle des spirituels. Mais ici, il les appelle des grâces imméritées. Parce qu'il veut que nous comprenions que tous les enrichissements, tous les dons de Dieu, c'est des choses qui ne nous conviennent pas. Qu'en principe, on devait nous donner le contraire. Parce que c'est ça une grâce. Dès que vous pensez que j'ai ces dons, je suis grand, vous avez complètement mal compris. J'ai ce don pour que ce soit ridicule. Dieu veut montrer aux puissances de l'enfer, regarde, ces rebelles, coupables, souillés que j'ai pris au bord de la rue et regarde comment je les ai enrichis pour montrer que je suis le Rédempteur. Personne ne peut m'arrêter d'aimer et de sauver. Regarde ce décalage ridicule entre ce qu'ils méritent et ce que je leur donne. C'est ça le sens des dons spirituels. Et ces dons spirituels n'appartiennent pas à nous, chers amis. Parfois, on pense, j'ai le don de... Vous n'avez aucun don. Vous n'avez aucun don. Regardez le verset 4 encore. Le verset nous dit ceci. Il dit, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée, où? En Christ Jésus. C'est où sont les dons? Où sont les grâces? Pas en vous. En Christ Jésus. Et c'est parce que vous avez été greffés en Christ que vous avez part à ce qui est à lui. Tout don spirituel appartient au Christ ressuscité. C'est lui qui les a obtenus comme récompense pour sa vie parfaite et sa mort expiatoire. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Je vais vous le prouver. Et vous ne pouvez pas enlever un don, détacher un don de Jésus pour que ce don habite en toi. Chapitre 4 dans Éphésiens, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, il, Christ, est monté dans les hauteurs, sa résurrection, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est la même qui est montée au-dessus de tous les cieux, afin de remplir Jésus-Christ, afin de remplir, c'est lui qui remplit toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. L'idée ici, c'est que le Christ, il est devenu la tête qui contient toute le ou le cèpe qui contient toute la sève. Et nous sommes les serments qui viennent pour être greffés en lui. Mais en montant, il a emmené des captifs. Il a eu des dons. Et ces dons lui appartiennent. Il ne peut pas le quitter. Ils sont à lui les dons spirituels. À lui la puissance. À lui la force. Et quand vous avez un don spirituel, c'est simplement que vous avez été greffé en Christ qui possède tous les dons et il vous permet de participer à tel ou tel don. Donc c'est pour cela que Paul constamment, en 1 Corinthiens 1, il dit en Christ, en Christ, en Christ, sont ses dons et ses grâces. Et cela veut dire tout simplement que l'abondance des dons dans une église ne montre pas combien cette église est grande, mais montre combien Christ est grand. Si un millionnaire donne 100 000 euros à la personne la plus pauvre dans notre église, ou dans notre ville, ou la personne la plus pauvre en France, complètement destituée, qu'est-ce que ça montre? Est-ce que ça montre la grandeur de cette personne destituée? Comment est-ce qu'on peut croire ça? Ça montre la grandeur de la grâce du millionnaire qui daigne aller jusqu'à cette personne et ça montre la grandeur de la nécessité de cette personne, que ce soit lui qui ait été choisi d'avoir ce don. L'église de Corinthe était tellement nécessiteuse parce qu'elle vivait au fond d'une société complètement sorti de tout cadre. Donc elle avait besoin. Si nous voyons les dons correctement, les amis, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous ramène à Jésus-Christ encore et sa grandeur. Notre identité est en Christ. Notre enrichissement spirituel passé est une manifestation de Jésus-Christ aussi. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. En lui, vous avez été enrichis. Vous voyez ce que Paul veut dire? Il veut les ramener à Jésus-Christ. Votre identité, c'est une personne, la personne de Christ. Votre enrichissement, c'est Christ. Et troisièmement, pour finir, vous devez fixer vos yeux et orienter votre vie autour de Jésus-Christ pour ce qui est de l'avenir. Regardez, il a parlé du passé, cet enrichissement, il va parler du futur maintenant. Je lis à partir du verset 7. « Ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente. » On parle du futur maintenant. « Dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre... » De quoi ? De notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui encore. Savez-vous que 9 fois dans ces 10 fois dans ces 9 versets, il utilise le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Et il dit, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une manière de parler de son retour, mais il parle de son retour comme une révélation. Il vous affermira, Christ vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on appelle le dernier jour? On l'appelle son jour, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à quoi? À la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire, chers amis, que vous devez regarder le futur. En tant que chrétien, cette église doit être orientée vers le chemin maintenant à parcourir parce que le jour arrive. Le jour arrive. Dans un sens, nous sommes dans un circuit d'attente. Vous savez, ces avions qui ne peuvent pas atterrir encore, on les met dans un circuit d'attente. Dans un sens, c'est une mauvaise illustration parce que ces avions ne font rien. Il ne faut rien en attendant, alors que nous avons beaucoup de choses à faire, à servir le Seigneur. Mais dans un autre sens, oui, on peut parler de ça. Parce que quand on est dans l'avion, dans un circuit d'attente, ce n'est pas l'atterrissage. Ce n'est pas ce qu'on attend. Ce qu'on veut, c'est l'arrivée. Tout le voyage, c'est pour l'atterrissage. C'est pour cette arrivée, pour arriver à tel endroit. Or, nous sommes en attente. Et dans l'attente où vous êtes, mais vous êtes dans l'attente de quoi? Ce passage nous dit que nous sommes dans l'attente de la manifestation de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans l'attente de quelque chose qui tourne autour de nous. Ah, on veut un grand réveil. Oui, je veux bien. Mais moi, je veux que Jésus-Christ se manifeste, lui, de manière à ce qu'on soit en admiration de Christ. Qu'on soit complètement épris de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Et le plus grand réveil, c'est quand il arrive, n'est-ce pas? Et Paul, c'est bizarre, n'est-ce pas? Vous êtes dans l'attente, dans la manifestation de Jésus-Christ. Vous avez vu Jésus-Christ? Non, vous ne l'avez pas vu. Personne ici-bas ne l'a vu dans toute sa gloire. C'est impossible. Même Paul, quand il a été ravi au troisième ciel, il n'a pas vu ce que nous allons voir un jour. Et c'est pour cela que Jean dit ceci, écoutez bien. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté. Même mot. Vous ne savez même pas ce que vous allez être. Si je voyais un chrétien glorifié dans la glorification maintenant, je serais durement tenté de me mettre à genoux et de l'adorer, tellement il serait glorieux. Nous allons juger les anges. Nous allons être au-dessus des anges. Mais nous, tellement au-dessus du Christ, en dessous du Christ. Mais ce passage nous dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, pas dans sa divinité, mais dans son humanité glorifiée. Nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et donc, cher ami, la glorification, ce moment où vous allez être changé et vous allez devenir semblable à Jésus-Christ, va se faire par une seconde de vue de Jésus-Christ tel qu'il est. Tellement il est glorieux. Tellement il est excellent avec une excellence infinie à ravir le corps humain. Dès que vous le voyez tel qu'il est, vous allez être complètement transformé par cette vision. Juste le fait de le voir. Et donc, vous voyez, votre futur doit tourner autour de Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ que j'ai besoin. Et ici, je n'ai que les prémices de l'Esprit et je gémis. Ayant les prémices de l'Esprit, nous gémissons, dit Paul. Nous sommes dans le circuit d'attente. C'est quand nous le verrons que nous serons semblables à lui. Donc, notre avenir, vous voyez aussi, tourne autour de Jésus-Christ. Mais regardez juste la fin. Il dit, verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que Christ est fidèle, il va nous affermira, il va nous garder dans la foi en lui, jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables. Irréprochable, ça ne veut pas dire parfait en nous-mêmes. Le mot est un mot judiciaire qui signifie que personne ne peut faire contre nous une charge. C'est-à-dire, nous allons être complètement lavés par le sang du Christ, complètement purs au moment où il vient. Il n'y a rien que personne ne puisse nous reprocher, pas à cause de nous, mais à cause de son sang. À cause de lui. Seigneur, que je sois un pécheur envers toi, un pécheur coupable, jusqu'au jour de Jésus-Christ, et que tu sois envers moi le sauveur des pécheurs jusqu'au bout. C'est ça mon avenir. Et oui, je me transforme, je me sanctifie en Christ. Mais attention, je suis irréprochable à cause de son sang. C'est tout. Et comment est-ce que vous pouvez savoir qu'il va vous affermir jusqu'au bout? Parce que le verset 9 nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. » Il vous a appelé à la koinonia, ça ne veut pas dire le contact relationnel, comme nous on parle de communion, ça veut dire contact relationnel, mais ce mot dans le Nouveau Testament signifie surtout avoir part à la même chose que quelqu'un d'autre. Participer à quelque chose qui est à quelqu'un d'autre. Dieu nous a appelés à participer au statut de fils que possède le Fils de Dieu. Nous serons des fils humains adoptés, mais Christ nous fait venir dans la relation qu'il a toujours eue avec le Père en tant que Fils de Dieu. Et donc, mon avenir tourne autour de lui. Il m'amène dans ce qui est à lui, dans son amour. Et donc, mon identité, mon enrichissement spirituel du passé et mon avenir, tout tourne autour de Jésus-Christ. Et c'est surtout en me ramenant à cela que les dons vont prendre leur place, que les disputes vont cesser, que les problèmes divers dans l'Église vont maintenant trouver leur solution. Vous et moi, nous avons besoin que Dieu nous travaille vraiment, parce que nous sommes contre cette christocentricité, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas que Christ soit le tout. Il est le tout et en tout. Et ça, c'est notre bien, notre trésor, notre joie. C'est de l'avoir et d'être à lui. Que Dieu soit la gloire. Nous allons chanter ensemble pour nous préparer à la scène le numéro 52 que Nicky.